Vous êtes bien dans l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier où je reçois Ibrahim Alouf lors de son passage à Paloma. Il vous aura fait danser ou envoûter, le trompettiste est un réel magicien lorsqu'il s'agit de nous faire voyager. Malgré sa notoriété internationale, l'artiste continue de garder les pieds sur terre et de répandre son amour pour l'improvisation et le partage. Son parcours est bien plus surprenant que ce que l'on pourrait le croire. Je vous laisse écouter ça. Eh bien, bonsoir Ibrahim Alouf.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Ça part de là. Je suis extrêmement contente de vous recevoir. Ça fait quand même pas mal d'années que je vous connais maintenant. Malgré mon jeune âge, j'ai quand même pas mal grandi avec vous. Donc, je suis très, très contente de vous recevoir. Comme d'habitude, je commence avec une question où on revient vraiment sur la base de votre art, on va dire. Vous, il me semble que ça vient un petit peu d'un héritage. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment la trompette est arrivée dans votre vie et comment vous avez appris un petit peu à en jouer ?
On parle déjà de la musique, je suis né dedans, puisque mes deux parents sont musiciens. Et ma mère est pianiste, mon père est trompettiste. Donc j'ai découvert la trompette forcément en voyant mon père en grandissant à côté d'un monsieur qui en jouait tous les jours. Et puis après, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à lui demander s'il voulait bien me donner des cours. Et puis à 7 ans, il a accepté.
Voilà, du coup, tous les deux, c'était leur métier à plein temps.
C'était leur métier, mais ils étaient tous les deux profs. Ma mère de piano et mon père de trompette. Et en même temps, mon père, lui, il avait aussi, en plus d'être prof, une carrière de trompettiste, de concertiste, comme on dit dans la musique classique. Et donc, il faisait pas mal de concerts régulièrement. Il partait faire des concerts à droite, à gauche, un peu partout en Europe ou dans le Moyen-Orient, dans les pays arabes et tout ça.
Ok. Et du coup, au début, vous jouez seul. Est-ce qu'il y a la formation du groupe, elle arrive rapidement, jouer avec les autres?
Alors, en fait, d'abord, avant d'en arriver là, j'ai suivi un parcours très, d'abord, scolaire. Donc, j'ai passé un bac scientifique, je voulais faire des sciences, des maths et tout. Mais en parallèle, j'étudiais donc à la maison avec mon père tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à 17 ans, j'ai passé le concours d'entrée pour étudier au conservatoire, ils appellent ça rayonnement régional de Paris. Donc j'ai été pris, j'ai fait 2 ans là-bas jusqu'à l'âge de 19 ans. Ensuite j'ai passé le concours d'entrée au conservatoire de Paris. Donc, et je suis rentré de 19 ans jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai étudié là-bas, même 23 ans pour la classe de musique de chambre. Et pendant toutes ces années, je faisais des concours pour devenir trompettiste classique. Donc je faisais des concours d'interprétation, ce qu'on appelle les concours internationaux d'interprétation. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître, en fait, en étant d'abord un musicien classique. Et après, bien après, et alors que je composais depuis toujours à la maison, je passais mon temps à faire que ça. Moi, depuis que je suis tout petit, je m'amusais tout le temps en composant de la musique. Bien plus tard, vers 23, 24 ans, j'ai osé commencer à montrer un peu ce que je faisais perso. Pas tout ce qui était musique classique, ce qui était vraiment perso. Et de là, en fait, j'ai commencé à monter un premier groupe. C'est là que ça a commencé, c'est après mes études de musique classique.
Et au moment où vous montrez un petit peu vos compositions à vous, est-ce que c'était déjà le cas avant? Est-ce que vous montriez déjà un petit peu à vos parents, par exemple, qui étaient eux-mêmes, j'imagine, compositeurs
Mes parents n'étaient pas compositeurs, mon père a écrit quelques trucs, mais ma mère pas du tout.
Plus interprète du coup.
Ouais, plus interprète, ma mère en tout cas vraiment que interprète, et mon père 95% interprète, et il a un peu écrit d'autres choses. Mais oui, je leur montrais à eux, évidemment, je montrais à mes potes, je montrais à ma famille, à mes amis et tout ça, à ma sœur et tout. Donc eux tous étaient au courant que j'adorais faire ça, mais je le faisais jamais publiquement, ou très très rarement je le faisais publiquement. Et donc c'est arrivé, c'est à partir de... J'ai fait quelques rencontres quand j'avais 21-22 ans, qui ont déclenché des trucs, et qui ont déclenché des rencontres, d'autres rencontres, et ces autres rencontres ont été vraiment les triggers, c'est ça qui m'a donné confiance, en fait, pour ne pas avoir peur de montrer ce que je faisais dans mon intimité, dans ma famille, mes amis et tout ça.
Et même quand vous ne montriez pas encore vos compositions, est-ce que c'était quand même déjà un objectif pour vous d'en faire votre métier?
Non, jamais. J'ai jamais voulu en faire mon métier jusqu'à ce que ça le devienne. Vraiment, moi, je voulais être architecte, en fait.
D'accord.
C'était mon rêve. Je passais mon temps à faire des dessins d'architecture dans ma chambre, même sur mon mur, je faisais des collages et des trucs, je faisais des tours, je disais que c'était Beyrouth et tout. et en fait, c'est arrivé plus tard, en fait, c'est plus par défaut presque. On me disait que je dessinais pas très bien. et en maths, je voulais vraiment être très très bon en maths pour être un... Parce que je considérais que, vu que je dessinais pas super, il fallait vraiment que je sois super bon en sciences et en maths. Comme ça, ça compensait. Et donc, j'étais vraiment parti pour faire vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de mathématiques, mais dans le but d'être, au final, architecte. Et j'étais pas non plus au top en maths. C'est-à-dire que j'étais bon et tout, mais j'étais pas... comme j'aurais espéré, en fait. Okay. Dès que je faisais des trucs qui étaient liés à la musique et à la trompette, j'arrivais premier pratiquement tout le temps. Mon père m'avait bien formé à la musique classique. Et donc j'arrivais, je faisais des concours, je gagnais les concours et tout. Donc il y a un moment où, en fait, tout le monde me disait « Mais toi, tu vas faire de la musique ?» Et moi, je disais « Mais non, jamais, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. » Enfin, j'aime la musique, mais j'aime pas en faire mon métier. Et donc... Après, ça devenait presque prétentieux, en fait. C'est-à-dire qu'on me regardait, on me disait, mais toi, t'es premier au conservatoire, tu vas faire ça, machin. Et moi, je disais non, et je me disais, merde, ça la fout mal, parce que ça fait vraiment le gars qui s'en fout. Et donc, de là, en fait, mon esprit a commencé à se transformer un peu en se disant, mais en fait, il faut que j'ai confiance en moi dans la musique, c'est toute ma vie, mes parents font ça. Je ne fais que ça tout le temps. Quand je suis dans ma chambre, je fais que composer, inventer des trucs et tout. Donc, il va falloir que j'accepte, en fait, ce truc-là. Et donc, c'est parti. En fait, il y a même eu un événement dont je parle régulièrement quand on me pose cette question-là, qui a été le moment où vraiment j'ai pris conscience de ça. Et ça a été... ça s'est passé, en fait, exactement six mois jour pour jour après les attentats de 2001.
D'accord.
Du World Trade Center. Ça faisait un an que je préparais un concours à Washington, que je devais passer, et moi, comme je disais, dans ma chambre, c'était New York, j'avais les deux tours jumelles, je disais que c'était Beyrouth en 2050, enfin, j'étais vraiment en admiration, parce que moi, ma ville a été complètement démolie quand j'étais tout jeune, donc je rêvais vraiment de participer à la reconstruction de Beyrouth et tout, et donc je m'étais fixé comme objectif d'aller faire ce concours à Washington, et d'aller visiter les deux tours jumelles, et voilà, j'avais 21 ans, quoi. Et donc 6 mois avant le concours, il y a eu cet attentat. Donc je vois les tours s'effondrer, évidemment, comme tout le monde. Et ça me fait tilt. Et je me dis, bon, je vais quand même aller faire ce concours. Et on verra bien ce qui va se passer. Je vais aller à Ground Zero, c'est-à-dire ce qui restait, en fait, okay, du World Trade Center. Et je vais aller passer mon concours à Washington, qui est à 3 heures en train. Donc je vais faire le concours, je gagne le concours, j'arrive premier. Et ensuite, je vais le lendemain à New York et je visite Ground Zero, qui est encore une sorte de... qui est encore en cendres, en fait, qui était encore dans un état terrible. Et je me rappelle, j'ai pris ma décision à ce moment-là, ce jour-là et là-bas, okay, où je m'étais dit, bon, voilà, si je veux faire des immeubles, ben, il y aura toujours des gens pour démolir ce que je fais, alors que si je fais de la musique, ce sera intouchable. Voilà. Et donc, je me rappelle vraiment avoir pris ma décision à ce moment-là. J'avais 21 ans. Et je me suis dit, allez, je vais faire de la musique.
Aujourd'hui, votre art, il se démarque aussi pas mal par sa mixité, en fait. Il y a un mélange autant dans les ethnies des personnes avec qui vous collaborez que dans les couleurs, dans les arrangements, que dans les genres, etc. Est-ce que déjà à l'époque, vous aviez cette envie-là de mélange, quoi, d'union en quelque sorte quoi.
J'ai jamais verbalisé ça. Mais quand j'y pense, toutes mes compositions étaient des mélanges comme ça. Je me rappelle, j'avais un synthé avec un ordi, avec une sorte de chenifi, avec des cassettes et tout, parce qu'à l'époque, il y avait encore des cassettes. Et tous mes enregistrements, qui étaient une sorte de mini-studio, mais en moins bien, mais tous mes enregistrements intégraient plein de sonorités très différentes, un peu jazz, un peu oriental. Il y avait toujours un côté un peu africain, mais toujours avec de la guitare électrique et tout. Et en fait, je créais déjà des musiques qui étaient finalement hyper proches de ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a même pas mal de ces musiques-là que je joue aujourd'hui et que je composais quand j'étais tout petit. C'est juste que je les ai adaptées parce que du coup, c'était pas super bien écrit forcément, mais les mélodies, par exemple, sont pratiquement les mêmes.
Ok. Moi, je vous ai connu un petit peu plus tard que vos débuts. Je vous ai connu quand même assez tôt avec Yves Saint-Laurent. Et je voulais savoir si l'univers du cinéma, c'était quelque chose qui faisait déjà partie de votre quotidien. Comment vous en êtes arrivé, en fait, à faire ces collaborations-là, qui se multiplient encore aujourd'hui en salle?
Mais en fait, quand j'ai commencé à faire des concerts en tant que trompettiste classique, et je composais à côté plein de choses, et comme la trompette... J'ai jamais été trop fan de la trompette, en fait. Okay. Et même encore aujourd'hui, même si j'adore cet instrument, c'est pas... Il y a des trompettistes vraiment qui sont fanatiques de cet instrument, qui adorent, dès qu'ils se rendent compte, ils font « Ah, tu joues quelle embouchure, fais voir, là, c'est quoi la perce, machin, là. » Moi, je m'en fous, en fait. Je joue la même trompette pratiquement depuis toujours. J'ai jamais changé mon embouchure, c'est toujours la même. Enfin, je veux dire, j'ai pas ce truc de la passion de cet instrument comme certains. Je sais que je devrais pas le dire, mais c'est comme ça. Et ce qui me passionnait vraiment, c'était le cinéma.
Okay.
C'était la musique de film. Et tout le travail que j'ai fait pendant 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans pratiquement, sur mon premier album, en fait, je le faisais en me disant... Bon, je ne savais pas que ça serait un album. Je me disais, je suis en train de composer des trucs. Ça se trouve, il y a un réalisateur qui va les écouter. Et du coup, peut-être que ça sera une musique dans un film et tout. Et je rêvais de ça. Et en fait, je n'ai pas rencontré de réalisateur et c'est jamais devenu une musique de film. Et du coup, c'est resté... Il y a quelqu'un qui l'a écouté qui m'a dit « Mais tu devrais en faire un album et tout. » Je fais « Bon, ouais, ok. » Puisque je n'ai pas le choix, puisque de toute façon, aucun réalisateur ne l'a entendu. Donc, autant en faire un disque et puis on verra bien. Ça sera peut-être un point de départ et tout. Donc, j'ai toujours, en fait, intérieurement, toutes mes compositions, je les vois ou pour la danse ou pour le cinéma.
Ok.
Toujours. Ça a toujours, je les ai toujours vécus comme ça. Après, je les adapte pour la scène. Il y a certains, quand même, non, j'abuse un peu, mais il y a certains albums qui ont été vraiment faits pour être joués sur scène, mais très peu. Très, très peu. La plupart, c'est vraiment parce que je sens une sorte de mouvement et j'ai envie de les voir danser ou de les voir dans un film. Et donc, du coup, tout est très lié au mouvement et au visuel, en fait.
Et vos collaborations avec les réalisateurs et réalisatrices, en général, ça se passe quand? Du coup, c'est au moment où ils font le montage, vous arrivez dès l'écriture
Alors, ça dépend les réals.
Oui.
Ça dépend les réals. Vous avez évoqué Yves Saint-Laurent, c'est le premier film que j'ai fait. Donc là, il est arrivé, il m'a dit on est en train de tourner, voilà le scénario. Mais après, il y a des réalisateurs, très peu, mais qui veulent avoir la musique avant le tournage. D'autres qui ont déjà tout fini et ils étaient en train de bosser avec un compositeur, mais ça s'est mal passé, du coup ils changent et j'arrive un peu en dernier. Des fois je suis impliqué dès le début du processus. À chaque fois c'est très différent, il y a autant de manières de travailler que de réalisateur, en fait. Donc du coup je m'adapte à leur fonctionnement.
Là, on parle un petit peu des réalisateurs avec qui vous avez une collaboration qui est finalement assez courte, parce qu'une fois que le film est fini, le travail est fait. Mais les personnes avec qui vous travaillez sur scène, comment vous les avez rencontrées? Comment on arrive à se constituer une équipe avec laquelle on va
pouvoir
travailler longtemps, quoi?
Les réalisateurs, on travaille très longtemps avec eux.
Ah oui?
Ouais, des fois, ça peut durer plusieurs longs mois. Il y a même des réalisateurs avec qui ça peut presque être une question d'années. Parce qu'en fait, un film, ils le font pas comme ça. Ils le font en 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus. Donc, le travail avec le réalisateur ou la réalisatrice, parce que je travaille avec les deux, il dépend vraiment de l'économie ou de la méthode de travail, ouais, etc. Donc voilà. Et les musiciens, ça dépend. Ça dépend. Mais moi, je suis très sensible au rapport humain. Faut avant tout que je m'entende avec les gens pour travailler avec eux. C'est une priorité, c'est-à-dire c'est d'abord je vois si je m'entends et si humainement on partage les mêmes, je sais pas, une même manière de vivre, de se parler, les rapports. D'abord c'est ça, et ensuite viennent les compétences et l'excellence. Je sais que c'est bizarre de penser comme ça, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je trouve souvent qu'on se trompe en voulant d'abord chercher l'excellence et ensuite en s'adaptant à l'humanité, parce que du coup tu peux pourrir toute une histoire comme ça. C'est comme quand les gens se rencontrent dans un couple, avant de chercher à être sûr que la personne te plaît à 300%, qu'elle a toutes les qualités qui pour toi sont celles que doit avoir la personne avec qui tu dois vivre, parce qu'il est beau ou elle est belle, musclé ou canon ou je ne sais pas quoi, et là, ou a de l'argent, ou je ne sais pas, chacun a ses critères. Ben, tu choisis comme ça et après en fait tu essaies de vivre avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas vraiment et tu te trompes. Faut d'abord t'entendre avec la personne et après, si c'est en plus de t'entendre, il te plaît ou elle te plaît, il a des qualités humaines autres que juste de bien s'entendre, alors du coup il y a quelque chose qui est faisable. J'envisage toujours mes relations professionnelles de cette manière là aussi, et parce que je suis fidèle. J'ai envie de rester avec ces gens-là. Moi, Jean Lyonnais, par exemple, mon ingénieur du son, ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. Franck, ça fait 17 ans qu'on joue ensemble. Ouais. Le pianiste, le guitariste, ça fait plus de 12 ou 13 ans qu'on joue ensemble. Je dirais, c'est des vraies histoires de vie, en fait. Je partage ma vie avec ces gens-là. C'est pas juste un one-shot et c'est fini.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important dans votre façon de travailler. Peut-être que votre équipe le ressent aussi. C'est le fait de jouer de la musique. Et le mot jouer, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'un peu important pour vous, cette part d'amusement et de un peu solarité, quoi, on va dire.
Oui, parce que j'ai grandi avec un papa pour qui la musique et les concerts, c'était un enjeu vital. Et ça en devenait pas du tout joyeux. Comme j'ai commencé à faire des concerts avec lui quand j'étais tout petit, je l'accompagnais, il me prenait avec lui, on faisait des duos de musique classique ou de musique arabe et je faisais des concerts un peu partout avec lui. Et à chaque fois, je me souviens, quand j'étais petit, donc j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, je le regardais et il était hyper nerveux avant de monter sur scène, il transpirait, il était sérieux. Dès que je commençais à rigoler, il me disait « Arrête, je suis concentré, machin ». Et je m'amusais pas, je montais sur scène, je le voyais, il s'amusait pas, il montait sur scène, il parlait pratiquement pas avec le public, il jouait son concerto, il saluait, les gens l'applaudissaient, il sortait. Il y avait pas de joie. En fait, et j'ai compris plus tard que, en fait, à chaque concert, il jouait sa vie. Parce que pour lui, la musique classique et les concerts, c'est ce qu'il avait sorti de la misère. Mon père avait été paysan dans la montagne libanaise et c'est la musique classique qu'il avait sorti de la misère. Il avait réussi à construire sa vie, sa famille, acheter une maison en France, etc. Et donc, du coup, chaque moment où il était sur scène, pour lui, il fallait être à la hauteur de la France qui lui avait donné cette chance d'être à la hauteur du niveau de musique classique qu'il avait acquis grâce à Maurice André qui était son prof, etc. Donc à chaque fois qu'il jouait, il jouait sa vie. Et je suis pas de la même génération, je j'ai pas les mêmes enjeux. Moi j'ai grandi dans la musique, petit j'arrêtais pas de composer, de jouer. À 15 ans j'avais quasiment un métier parce que mon père m'avait tout appris, donc je me suis même pas rendu compte en fait du travail qui a été fourni parce que je le faisais machinalement, j'avais pas le choix. Et donc du coup on n'a pas le même rapport avec la scène. Moi je monte sur scène pour m'amuser, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Je joue pas toute ma vie quand je suis sur scène.
Okay.
Je suis pas là pour ça. Je considère que j'ai fait mes preuves quand j'étais jeune. C'est pas que j'ai rien à prouver, c'est pas du tout ça, mais que la musique doit être avant tout un dialogue en fait, un partage avec les gens. Donc mon enjeu, je vais le mettre dans la nécessité d'être dans un vrai lien avec le public et d'échanger, de vivre une vraie expérience ensemble. Sinon, s'il n'y a pas cette joie-là, je préférerais même pas faire de la musique, je ferais autre chose.
Vous créez pas mal du coup un lien avec votre public, mais vous avez aussi cette façon de travailler où vous apprenez aussi à des élèves, etc. C'est venu à quel moment, en fait, de vouloir faire cet apprentissage-là ?
Ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Mes deux parents sont profs, comme j'ai dit. Dans ma famille, il y a énormément de profs, même dans mes ancêtres. J'ai un oncle qui est écrivain, qui s'appelle Amine Malouf, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Origine, dans lequel il raconte comment justement nos ancêtres ont amené les premières écoles dans les villages au Liban. Donc je parle d'un truc qui a existé il y a 250-300 ans. Et donc en fait, dans toute ma famille, l'enseignement, en fait, la poésie, la littérature, la musique, l'art, la danse, le théâtre et l'enseignement sont les valeurs phares de notre sont les piliers de notre famille depuis toujours.
Okay.
Il y a des familles c'est le business, il y a des familles c'est je sais pas moi l'agriculture, etc. Nous dans notre famille ça a toujours été ça, la littérature, l'art, l'enseignement, le journalisme, etc. Donc du coup il y a toujours eu cette évidence là. Enfin j'ai jamais, mon premier boulot moi ça a été de donner des cours quand j'avais 17 ans. Je donnais des cours à des élèves, à mon père qui avait besoin de cours de trompette en plus parce qu'il galérait, etc. Donc mon père me disait, bah, si t'as envie, vas-y, appelle-le, etc. Donc, et j'ai commencé comme ça et j'ai jamais arrêté. Okay. Jusqu'aujourd'hui, j'enseigne encore, mais j'ai diminué, on va dire, les doses il y a près de 3-4 ans pour me consacrer à une autre manière d'enseigner qui est moins, directe de personne à personne, mais avec des groupes.
Ok.
Voilà.
Et vous avez aussi tendance à, j'imagine, dans votre apprentissage, à faire quelque chose de moins structurel que d'autres personnes peuvent le faire, parce que j'ai l'impression que l'improvisation est assez importante pour vous. Vous en avez notamment fait un festival, un livre. Je voulais savoir un petit peu la part qu'elle avait toujours aujourd'hui dans votre vie.
Alors, l'improvisation dans ma vie est devenue une philosophie. Mais c'est pas là maintenant. C'est un truc qui a toujours existé, mais je le savais pas. J'ai commencé à comprendre... Il y a une dizaine d'années en fait, une dizaine d'années ou un peu plus. Plus je réalisais que ça faisait partie de moi et que c'était inhérent à toute forme de création, à toute forme de rapport avec les gens, à tout quoi, même mes enregistrements, même ma manière d'être, même tout. J'ai compris en fait que j'étais vraiment un enfant de l'improvisation. Et plus je l'ai compris ça, et plus j'ai intégré d'autant plus ça dans ma vie. Ce qui fait que maintenant, je considère que c'est peut-être tout, enfin, c'est global. Quand je monte sur scène, je prépare pas ce que je vais dire.
Okay.
On décide avec les gars quels morceaux on va jouer, on les travaille, etc. Évidemment, parce que c'est important. Mais c'est devenu une philosophie parce que j'ai compris que quand on improvise et qu'on est uniquement dans la spontanéité, on est toujours dans la vérité. On n'est pas toujours dans la performance, ce qui est très différent, mais on est toujours dans la vérité. Tous les concours que j'ai faits ou les études que j'ai faites avec mon père, parce qu'il m'a, je considère que c'est des études parce qu'il m'a enseigné, la règle numéro 1, c'était de jamais faire d'erreur. Et quand tu fais un concours international et que tu as fait 8000 km pour passer un concours et que tu as bossé pendant un an et demi pour faire ce concours, que tu arrives, que tu connais tout bien et que tu te trompes sur une note, tu es éliminé. Donc cette manière-là de voir la musique, je l'ai évacuée définitivement de ma vie. Moi aujourd'hui, dans mes concerts, je fais plein de fautes et je m'en fous. Parce que l'objectif, il n'est pas là, en fait.
Puis le public ne le remarquera même pas, finalement.
Peut-être qu'il le remarque, et ce n'est pas très grave, surtout. C'est j'ai dit et ben ça, c'est une erreur, enfin, techniquement. C'est une erreur.
Mais ça rend aussi plus humain, je pense.
En fait, ce n'est pas ça, c'est que c'est plus sincère.
Oui.
Et donc, si je suis plus sincère, donc le message va mieux passer. C'est pour ça que je disais, ma priorité, c'est le rapport avec l'autre et qu'il soit sincère. À partir du moment où tout est préparé, si là, par exemple, tu fais cette interview et que j'ai déjà mes réponses, parce qu'on me les a déjà posées, donc du coup, j'ai déjà un code, je sais ce qu'il faut dire pour ne pas me tromper, pour ne pas que tu reprennes et que tu coupes et que tu fasses une autre interview avec ce que je viens de dire, il va se passer un truc, c'est que la rencontre ne va pas exister. Elle va pas avoir lieu.
Ouais.
Tu vas être contente parce que tu as fait ton interview, mais tu vas dire, mais par contre, ces réponses, c'était un peu chiant. Enfin, ça remarque, ça se trouve, tu vas dire ça. Mais au moins, en tout cas, moi, j'aurais senti que j'ai délivré quelque chose de sincère. Et je me suis rendu compte aussi, avec le temps, que dans la vie, quand on est comme ça, tout est beaucoup moins fatigant. Vraiment. Vraiment,
tout moins est... prise de tête, peut-être.
Ah, mais c'est même pas ça, c'est que tu te trompes jamais, en fait, en vrai. Parce que tout ce que tu fais est sincère. Donc si tu comprends, tu te dis, mais pourquoi je me suis planté là? Ah, mais c'est parce que je voulais ça et parce que ceci. Ça, c'est Lacan. C'est les gens qui sont des lacanistes. Dans la psy, on connaît ça bien. Le lapsus dit toujours la vérité. C'est peut-être pas le sujet qu'on est en train d'aborder, mais il dit toujours la vérité. Et donc, je suis un lacaniste. Voilà. Je considère que à partir du moment où on se trompe, c'est qu'il y a une vérité derrière. C'est pas une faute. Par exemple, si je suis en train de jouer et que je rate ma note, c'est parce que j'étais pas prêt. C'est ça la vérité. Et c'est une vérité. C'est que j'étais pas prêt pour la jouer. Je l'ai jouée quand même. J'aurais peut-être pas dû, en fait. J'aurais peut-être dû jouer autre chose. Et donc, ça va me diriger vers autre chose. Donc, le lendemain, cette phrase, je vais la jouer différemment. Je vais la préparer, je vais l'amener différemment. Et je vais l'amener avec plus de vérité que la manière avec laquelle je l'ai écrite qui a fait que je me suis trompé. Tu vois, et en fait, toute ma philosophie de vie, et peut-être aussi parce que j'ai vécu des expériences douloureuses, a fait que ça m'a d'autant plus convaincu que c'était la seule façon de faire. Que dès que tu commences à calculer, tu te trompes, en fait.
Ok. Merci beaucoup pour toutes ces belles paroles. Je vous souhaite un très bon concert pour ce soir et pour le reste de la tournée.
Merci. Et puis bon courage pour les interviews.
Merci beaucoup.
C'était Margot en compagnie d'Ibrahim Alouf pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci à Marceau Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.